Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la Demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité.
À la fin des années 90, j'ai une dizaine d'années et ma sœur, Amélie, que j'embrasse d'ailleurs, était une grande fan de Dawson diffusé le samedi sur TF1. Au cours de la saison 2, le personnage de Jack McPhee, le frère d'Andy, joué par Kerr Smith, fait son apparition. Il se cherche et se trouve au fil des épisodes. À la fin de la saison 3, a lieu le premier baiser entre deux hommes à la télévision américaine. Puis il y a eu Tara et Willow dans Buffy contre les vampires. En 2022, les personnages homosexuels sont devenus une normalité et ne sont plus relégués aux personnages secondaires. Ils ont même droit à leur propre série. On peut citer Victor, le héros de Love Victor, la suite de Love Simon, dont la saison 3 est disponible depuis ce mercredi 15 juin sur Disney+. Charlie Springs et Nick Nelson, les deux amoureux de Heartstopper, la série trop cute de Netflix. Ou Juliette et Calliope, les héroïnes de First Kid, la nouvelle série de vampires qui met en scène une romance lesbienne sur Netflix également. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la Demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes de streaming. Et cette semaine, vous l'auriez compris, pour ce mois des fiertés, on s'intéresse aux séries LGBTQIA+, destinées aux adolescents et disponibles en SVOD. Pour ce numéro, je suis ravie de retrouver Juliette Heusbrock, une habituée de ce rendez-vous. Salut Juliette.
Salut Thomas.
Et on commence ce tour d'horizon avec la saison 3 de Love, Victor. À la fin de la saison 2, Juliette, Victor devait faire un choix entre Benji et Raïm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces derniers épisodes, parce que c'est la dernière saison? Et est-ce que tu as aimé cette saison?
Alors que les spoilers allergiques se mettent tout de suite en mute, puisque je peux vous dévoiler qui Victor a choisi. Et il a fait exactement le choix que je ne voulais pas, à savoir il retourne sonner chez Benji.
Ah non, pourquoi tu me dis ça, Juliette?
Tu vas passer une mauvaise journée, mais...
Je pense.
Mais en fait, j'avoue que c'est vrai, moi, comme toi, personnellement, je suis plutôt Team Raïm. C'est un personnage beaucoup plus frais, qui a beaucoup plus d'humour. J'avoue que j'aime pas du tout ce côté un peu droopy que se traîne Benji depuis la saison 1. Après, bon, le cœur a ses raisons que la raison et moi-même ignorons complètement. En tout cas, j'avoue que j'aime beaucoup cette nouvelle saison, malgré ce choix. Et en fait, pour tout dire, je suis assez soulagée. En fait, moi, la saison 2 m'avait énormément plombée. J'avais adoré la saison 1. Et en fait, la saison 2, alors, elle abordait des sujets un peu plus matures, comme le coming out. Sauf que pour le cas de Victor, ça se passait extrêmement mal, notamment avec sa mère. Et en fait, le hic à ce moment-là, c'est que le puritanisme de sa mère et sa difficulté à accepter la sexualité de Victor, c'est vrai, ça représente une réalité tristement vraie aux États-Unis. Donc c'est difficile de dire que c'était un mauvais choix scénaristique et qu'il aurait fallu faire comme si on était dans le monde des bisounours. Mais le problème, c'est qu'ils ont vraiment tiré en longueur sur cet arc-là. Ils en ont fait des caisses. Sauf que pour moi, l'objectif de cette série, et on parlera après d'Heartstopper, mais en fait, pour moi, l'objectif de cette série, c'est d'aider les ados qui la regardent à mieux s'accepter et surtout à se décomplexer du fait d'exprimer, de comprendre leur sexualité et puis ensuite, dans un second temps, de l'exprimer peut-être à leurs proches. Et en fait, j'étais vraiment embêtée avec cette saison 2 qu'on représente, tu vois, encore le coming out comme une sorte de cérémonie sacrificielle où, pour certains jeunes, ce serait forcément une source de forte souffrance entre le fait de s'exprimer et le fait d'être gay. Et moi, ça me gêne qu'en 2022, on propose encore des séries aux jeunes qui fassent cette association, si on veut les aider à se décomplexer en tout cas. Surtout que Love, Victor n'a jamais eu pour vocation d'être une série dramatique. Et en fait, je trouve que justement, la saison 3 rectifie le tir dans le sens où là, on ne parle plus de blessures irrémédiables entre une mère et son fils, de grosses cassures. Tu vois, on parle juste d'ados qui s'aiment, qui se séparent, qui se disputent. Et pour moi, ça, c'est la vie d'un ado gay ou pas, mais c'est la vie amoureuse de quelqu'un qui a 16 ans, quoi. Et en fait, moi, c'était ça que j'attendais dans une seconde partie de Love, Victor. C'était qu'une fois qu'on avait traité le sujet de comment je m'accepte en tant que personne gay à 16 ans, et ensuite, faire comprendre que la normalité reprend le dessus dans les relations amoureuses. Et la saison 3 réussit ça. Et puis surtout, on retrouve évidemment Félix et Lake, qui, moi, à titre perso, sont mes petits chouchous, parce que c'est vraiment les plus drôles de la saison 1 à la saison 3. Et en fait, ils reprennent vachement de place en saison 3, là où on les avait un peu mis en silence en saison 2. Et puis, voilà. Nouveau spoiler, ils sont plus ensemble en saison 3, mais pour le mieux, puisque du coup, ils vont chacun un peu explorer leur vie amoureuse et sexuelle, chacun de leur côté, notamment Lake avec une copine du lycée. Enfin, voilà, quoi, c'est fun, c'est léger, ça crie un peu, mais c'est être amoureux à 16 ans, quoi.
Alors, Juliette, comment ne pas parler des séries LGBTQIA+, sans parler de Heartstopper, qui a été aussi un coup de cœur pour moi en avril dernier sur Netflix. Est-ce que toi aussi, cette série t'a plu ?
Enfin, là, c'est succès complet, toutes les cases sont cochées. Alors, effectivement, c'est une série pour ados. Enfin, voilà, ça fait partie des séries classiques, teenagers. Sauf que moi, c'est vraiment une série que je recommande à toutes les générations de regarder. Et en fait, à titre personnel, et pas mal de personnes de mon entourage m'ont fait la réflexion, c'est vraiment, tu vois, le genre de série que j'aurais adoré avoir vu à 14 ans, que j'aurais adoré qu'on me montre à 14 ans, et peut-être même que j'aurais aimé la voir avec mes parents, tu vois. Parce qu'en fait, c'est mignon, tout en étant réaliste, et sans jamais verser dans le négatif à l'excès. C'est-à-dire que oui, il y a des difficultés sur le fait de faire son coming out au lycée, sur le fait d'être amoureux du premier garçon quand on est un garçon soi-même. Mais en même temps, voilà, il n'y a jamais rien de... Il n'y a jamais rien d'irrémédiable, justement, puisque quand on est ado, bah, tout est éphémère, tout passe. Et en fait, c'est juste deux ados qui se découvrent eux-mêmes en découvrant qui ils aiment. Et moi, ça m'a vachement plu. Et oui, c'est riche en passion et en désespoir, mais ça reste assez pédagogique. Et en fait, pour moi, c'est rare de voir une série LGBTQIA+, avec aussi peu de clichés. Et tout à l'heure, tu vois, pour Love, Victor, en fait, je te parlais de la scène de coming out entre Victor et sa mère. Et là, il y a une scène de coming out entre Nick et sa mère, qui est interprétée par notre reine à tous, Olivia Colman. Et oui, cœur sur elle. Et en fait, il avoue à ce moment-là à sa mère qu'il est amoureux de Charlie. Et en fait, ce qui m'a touchée, tu vois, dans cette scène, c'est la simplicité de sa réaction à elle. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de joie excessive non plus. Elle est juste envahie par le bonheur du fait que son fils arrive à lui parler et que son ado de 16 ans arrive à lui parler de sa vie amoureuse. Parce que le sujet, à ce moment-là, c'est pas la sexualité de Nick, et ça ne devrait jamais l'être, d'ailleurs. C'est juste que lui, il se sent assez en confiance pour être écouté par son parent et se confier à lui, peu importe le sujet. Et en fait, moi, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et je me languis vraiment de voir la saison 2.
Alors, je crois que tu as beaucoup moins aimé First Kill, qui est la nouveauté de Netflix qui est sortie le 10 juin dernier. Peux-tu nous dire pourquoi, Juliette ?
Tu me lances sur le sujet en sachant pertinemment que je vais ressortir mon petit pieu en argent pour assassiner cette très très mauvaise série de vampires.
Pourtant, tu l'attendais avec impatience.
J'attendais avec grande impatience. Je t'en parlais depuis des semaines. Parce qu'en fait, je suis exactement le public cible. Hein, c'est-à-dire que malgré mon âge, j'adore les séries teenagers. J'adore les séries de vampires. Enfin, Buffy, ma passion depuis ma plus tendre jeunesse. Et j'adore les séries queer. Donc du coup, pour moi, ça cochait énormément de cases. Et puis j'attendais, tu vois, une série qui soit la digne héritière de Vampire Diaries ou justement de Buffy, mais version de 2022. Bah, c'est encore loupé, ce sera pas pour cette fois-ci. Et pourtant, vous l'aurez compris maintenant, je suis friande des séries inclusives. Sauf que l'inclusivité fait évidemment pas la qualité. Donc pour te pitcher rapidement ça, bon bah Juliette est une vampire, Calliope est une chasseuse de vampires, et forcément ça donne quoi ? Bah boum, ça donne un coup de foudre. En soi, leur relation, bon, elle n'a pas vraiment de sens parce que ça arrive de n'importe où, mais elle est plutôt pas mal traitée sur le plan de l'inclusivité, puisque dans la série, le fait que ce soit deux filles, c'est jamais vraiment un sujet. Et ça, c'est plutôt appréciable. Voilà, c'est juste une histoire d'amour, façon Roméo et Juliette. Donc voilà, juste on comprend pas vraiment d'où ça sort, dans le sens où elles sont vues une fois et demie, elles ont rêvé d'elles, elles ont rêvé mutuellement l'une de l'autre, on ne sait pas pourquoi, deux fois. Donc voilà, c'est très soudain. Par contre, pour moi, il y a un vrai problème sur cette série, que ce soit au niveau de l'écriture, du scénario, c'est du vu et revu et re-revu, et même au-delà de ça, la mise en scène, mon Dieu, et puis alors, le jeu d'acteur, enfin voilà, on dirait vraiment une très mauvaise fanfiction de Buffy sur laquelle on serait tombé, tu vois, une nuit d'insomnie sombre et difficile. Moi, je préférerais, en fait, quitte à parler de séries lesbiennes qui peuvent apporter un petit éclairage aux jeunes, je préfère te parler étonnamment de The L Word. Donc tu vas me dire, tu me ressors une vieille marotte des années 2000. Et oui, je sais que les ados d'aujourd'hui n'étaient pas nés quand The L Word est sorti et était diffusé. Et en fait, il y a une suite qui est sortie. La première saison est sortie il y a 2 ans et demi maintenant, qui s'appelle donc The L Word Generation Q, qui est dispo sur Canal+. Et donc en fait, c'est une suite qui fait revenir une grande partie des anciennes. Donc voilà, pour les gens comme toi et moi qui ont aimé The L Word dans les années 2000, il y a de quoi nous satisfaire. Mais surtout, ça suit une nouvelle génération de jeunes personnes qui vivent à Los Angeles. Et en fait, c'est une série qui est plutôt destinée aux jeunes adultes qu'aux ados. Sauf que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est dur de faire des suites, c'est dur de faire des spin-offs. On en a déjà parlé de nombreuses fois dans ce podcast. Sauf que là, justement, la série qui, en plus, traite de sujets de société assez forts comme la sexualité, le genre, réussit à se remettre à la page. Alors, je dirais pas qu'elle est aussi révolutionnaire que ce qu'elle a été dans les années 2000. Mais voilà, elle réussit à récupérer le rythme, surtout en saison 2. Et là, la saison 3, d'ailleurs, le tournage vient de commencer. Sinon voilà, pour varier un peu les plaisirs, en moins contemporain mais en tout aussi frais, il y a la série Dickinson qui est sur Apple TV+. C'est avec Hayley Steinfeld, voilà, que les fans de Marvel reconnaîtront rapidement. Et donc en fait, ça revisite de façon très moderne l'histoire d'amour entre l'écrivaine Emily Dickinson et Sue Gilbert. Et c'est surtout une série qui est extrêmement drôle. Et sinon, alors c'est plus les personnages principaux des séries, mais évidemment je peux pas finir ce podcast sans recommander aux ados qui se chercheraient de voir évidemment Sex Education. Voilà, je pense que c'est un incontournable pour les jeunes et les moins jeunes, et même Scam, que ce soit la version scandinave comme la version française.
Ah bah la saison 3 de Scam est très très belle, et c'est les personnages principaux pour le coup, c'est l'intrigue est sur eux. C'est magnifique cette saison 3. Sur France.tv ou Salto.
Exactement. Donc franchement, foncez. Donc voilà. Et écoute, je vais m'arrêter là parce que sinon on y est encore demain. Et j'ai l'impression que tu n'as pas de rosée à me proposer dans ton tiroir. Donc tant pis pour vous. mais voilà, en tout cas, je pense que là, on a un bon aperçu de que vous soyez parents ou que vous soyez ados, de ce qu'il faut regarder, ce qu'il faudrait regarder si c'est des questions sur lesquelles vous avez envie de ne serait-ce que vous mettre à jour, même si vous ne vous sentez pas nécessairement concerné.
Merci beaucoup, Juliette, pour tous ces coups de cœur que tu as partagés avec nous.
Et ben avec grand plaisir.
Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la Demande et n'hésitez pas d'ici là de nous soutenir ou donner votre avis sur le podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.